revue de presse de l'April, promouvoir et défendre le logiciel libre.
Semaine 11, année 2016, salut Mani.
Salut Luc.
Donc cet article est pas de Nico.
Non, pas de Nico cette semaine, sûrement la semaine prochaine.
Bon, faut pas abuser des bonnes choses.
Non, tout à fait. Donc ça n'empêche, on a des bons sujets, des gros sujets. Le gouvernement américain, par exemple, qui est en train de discuter par rapport à ses administrations et au logiciel libre, la rente et la culture de la rente, les profs et l'accord Microsoft Éducation Nationale, les chatons, super sujet, tu vas voir, la priorité au logiciel libre et le gouvernement, Facebook, et puis Stallman qui fait le troll, mais un troll qui est repris un peu partout, donc on aime bien. Et puis un dernier article en anglais, vraiment intéressant sur Microsoft, à quel point il aime le logiciel libre.
Développé.com, le gouvernement américain désire rendre open source une partie du code de ses logiciels développés et partager ses logiciels entre ses agences. Un article d'Olivier Famien.
On a l'impression de rentendre les sujets qu'on rabâche depuis quelques semaines sur l'État français, l'open data, la priorité au logiciel libre dans les administrations. Mais là, non, c'est le gouvernement américain.
Ouais, et même si tu veux parler de ce qui se passe en France, le logiciel de simulation fiscale qui a été diffusé il y a peu de temps, mais il a fallu se battre pour ça. Là, c'est une politique volontaire de la part de l'État américain. Qui
particulièrement
veut,
volontariste, voilà, hein, il met vraiment les mains dedans.
Source par rapport au logiciel qu'il développe, avec une double ambition qui est que ce soit moins cher, inviter de faire des développements en double et de permettre aux gens de travailler mieux, plus efficacement ensemble au sein de son administration.
Réutilisation, hein, je pense qu'ils ont compris l'intérêt de la chose. Peut-être aussi, ça, et ils ne le mettent pas forcément en avant, mais se débarrasser un petit peu du lock-in, du blocage qu'ils ont avec leurs fournisseurs, parce que quand tu es à utiliser du logiciel propriétaire,
bah là, je pense
t'as une chance pour en repartir.
Ouais, mais je pense quand même qu'ils évoquent des logiciels qu'ils développent en interne, enfin oui, des logiciels carrément de l'État. Donc c'est quand même l'idée d'appliquer ce principe à son propre développement logiciel.
Je pense que ça peut intéresser le monde entier, parce que clairement, il y a forcément des logiciels faits par les Américains et les administrations américaines qui vont intéresser d'autres administrations, la française, l'anglaise, n'importe. Faudra forcément internationaliser, mais il y a forcément là-dedans des choses à repiocher. C'est génial. Ouais, ils vont mettre au pot commun des choses qui peuvent être intéressantes.
ZDNet France, la culture de la rente française en plein désarroi face à la révolution digitale. Un article de Guillaume Serriès.
Donc c'est quasiment une tribune sur le business en France et les évolutions du numérique.
Oui, du digital, donc rien à voir avec les doigts, hein, on aime bien se moquer de
la terminologie hein.
Digital. Mais là en fait il parle effectivement de numérique, d'informatique. Cet article est écrit par un sociologue qui travaille pour Capgemini.
Ah mais c'est horrible.
Non, mais quand j'ai vu ça, normalement sociologue c'est vraiment la formation où soit on devient prof de sociologie, soit on devient chômeur, et on va faire autre chose. Donc Capgemini a des sociologues, c'est génial. Donc là, ce sociologue parle des entreprises françaises, une sorte de tradition qu'on aurait chez nous, qui est de monter des rentes et faire de l'argent avec des systèmes où on est en monopole, avec des systèmes bien verrouillés, et où l'argent tombe tout seul.
Entre nous, je pense que tout le monde cherche à être en position de monopole à un moment donné. Les Américains, pas pire que les Français, mais effectivement, en France, on a l'air d'avoir monté ça comme un élément important de notre culture d'entreprise.
Voilà, effectivement. Et donc la rente, hein, c'est cette idée d'être s'appuyer notamment sur la législation. Alors ici, les taxis. Bon, en France, on a plein de choses comme ça. Moi, j'ai un ancien patron qui m'avait expliqué que les grosses boîtes françaises, leur principe, c'était de construire des tuyaux et de mettre des robinets dessus et des compteurs. Et c'est valable pour plein de choses, que ce soit l'eau, l'électricité, les transports, des choses comme ça. On peut penser par exemple aux autoroutes. Hein, c'est un flux. On met des portiques et on touche à chaque fois que ça passe.
Le Minitel était probablement dans ce modèle-là.
C'était
hein,
tout
clairement
à fait dans cette logique-là.
Et effectivement, ouais, c'est pas des logiques qui tiennent face à Internet. Internet, c'est des tuyaux qui n'ont pas de valeur en soi. Ils sont tous à égalité. Neutralité du net, c'est pour ça que c'est important. Et au final, c'est plutôt dans les bouts que là, on rajoute de la valeur ajoutée. Et c'est là que vraiment, on va pouvoir construire des choses et créer de la valeur, éventuellement monétiser tout ça. C'est pas simple.
Alors, il parle des nouveaux barbares. Hein, c'est dans les termes utilisés par les gens qui montent des boîtes et des choses comme ça, qui vont en général taper là où ça fait mal, là où il y a des faiblesses du côté de ces gens-là. Alors, on pense à Uber, par exemple, hein, qui attaque de plein front le monopole organisé légalement au niveau des taxis. Alors, on voit, hein, c'est pas que des trucs sympas, loin de là.
Uber, clairement.
Non. Et on peut supposer qu'il y en a plein d'autres.
Mais ils profitent d'une faille, quelque part. Il y a une rente et ils tapent dedans. Et clairement, il y a un avantage.
Uber, ils ont été jusqu'à faire des trucs illégaux, puisque notamment Uber Pop s'est fait interdire. Donc, ils sont là pour tout péter et profiter de ces choses-là. Pas nécessairement pour le meilleur, mais.
Ça fait bouger.
Voilà,
ça
c'est aussi bouger. Le problème de tous ces systèmes verrouillés et bloqués. C'est que c'est l'immobilisme, c'est pas bon non plus. Donc, l'article n'est pas hyper développé, mais le sujet est nouveau, donc je le trouve plutôt intéressant et assez significatif par rapport à ce verrouillage qu'on peut connaître en France et qu'on peut tout à fait dérouler par rapport à nos sujets. Mediapart, pourquoi les profs vont boycotter l'accord Microsoft Éducation Nationale? Une tribune de Bruno Menant.
Qui est membre de l'April.
Un enseignant, membre de l'April. Voilà, il affirme que ça va pas marcher et on espère qu'il aura raison.
On espère grave.
Et ce qui est intéressant dans cette tribune, c'est qu'il met l'accent sur non pas la partie finance ou le fait que les élèves vont être orientés, enfin il en parle hein, bien sûr, mais beaucoup sur le travail des profs, il est lui-même prof, et l'idée que dans cet accord, les enseignants sont fortement sollicités pour mettre leur contenu pédagogique sous des formats Microsoft et sur les serveurs de Microsoft, et donc en perdre complètement la maîtrise de ces contenus pédagogiques.
J'imagine, hein, Microsoft adorerait se mettre dans une position un petit peu de Facebook de l'éducation, où en gros tout le monde pose sur Microsoft, et Microsoft, eh bien, il y a toujours des petites clauses hein, qui disent que ce que vous avez posé chez eux, ça leur appartient aussi.
Voilà, on rappelle qu'il y a un site très fréquenté par les profs qui s'appelle le Café Pédagogique et qui est très largement un sous-marin de Microsoft.
Oui, on a découvert ça voilà. Il n'y a pas si longtemps.
C'est connu depuis longtemps. Hein. Ah. Mais donc là, ce serait une sorte d'institutionnalisation de cette logique-là. Et donc cette tribune est là pour alerter les enseignants là-dessus en disant attention, bon, non seulement voilà, on est en train de livrer nos élèves à une boîte en question, on bosse pour eux, mais en même temps, ils sont en train de nous piquer tout notre savoir-faire, tous nos contenus pédagogiques, etc. Donc c'est une très bonne chose de le souligner. La tribune, les chatons toutes griffes dehors face aux géants du net. Un article de Sylvain Roland.
Alors, les chatons, tu sais que c'est un acronyme ?
Oui, tu peux nous dire quoi ?
Ah mince, je voulais te demander en fait. Non, on va éviter de creuser là-dedans. Non, les chatons, c'est une initiative de Framasoft.
Moi, je vais le dire parce que j'y tiens quand même.
Oh.
C'est quelque chose, donc Framasoft hein, qui dégooglise Internet, c'est leur grande campagne qui est un succès. Ils ont fait plein de services, ils grossissent et ils se rendent compte que ça risque de mal se passer, qu'être trop gros, c'est le meilleur moyen de se planter et ils veulent essaimer.
Et puis, en plus de ça, ils attirent les foudres hein, parce que quelque part, ils veulent casser les gros et eux-mêmes, eh bien, tout le monde leur dit, vous allez devenir trop gros, donc c'est pas bon. Vous vous mettez en alternative et votre alternative, elle va devenir aussi pourrie.
Et oui, c'est tout à fait ça. Et donc, l'acronyme, puisque comme il faut le dire, c'est collectif. Dur. D'hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires. Chatons au pluriel.
Ouais, ils ont dû creuser pour obtenir ça.
On retrouve là-dedans un certain nombre d'associations qui sont intéressées, notamment la mère Zaclis.
Que t'aimes bien.
Voilà, hein. Bah moi j'ai un truc chez eux et ça marche très bien. Donc il y a cette idée d'essaimer, de s'organiser collectivement pour que chacun puisse proposer des services différents, que tout le monde fasse pas la même chose.
De s'entraider.
Voilà.
Les logiciels, ils permettent de profiter d'un savoir-faire, de réutiliser ce qui a déjà été utilisé par d'autres. Donc vraiment, ils mettent en commun. Et en plus, il y a des règles de fonctionnement donc qui peuvent aller assez loin. Je crois que même comptablement...
Alors, il dit que les règles n'existent pas encore puisqu'elles sont en cours de négociation et que c'est justement là que ça risque d'être un petit peu compliqué parce qu'on retrouve dans l'affaire Cozy Cloud qui est une entreprise et évidemment, quand on est une association, une entreprise, on n'a pas les mêmes buts, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas
les mêmes
engagements, etc. Donc, ce sera, en tout cas, nous dit l'article, pas évident pour eux de trouver un terrain commun. En tout cas, ils vont y travailler. Et dans ce choix, en fait, d'essaimer, de ne pas grossir de trop, on retrouve l'exemple, hein, l'article n'en parle pas, mais je trouve que c'est quand même intéressant de faire le lien, de FDN, qui est un fournisseur d'accès associatif, qui a connu un certain succès, notamment grâce à son leader charismatique bébé,
Benjamin Bayard,
et qui du coup a lancé la FFDN, la Fédération FDN, en disant plutôt que de venir tous chez FDN, montez vos fournisseurs d'accès associatifs locaux, et on va s'organiser tous ensemble, et ça a plutôt pas mal marché. Et effectivement, c'est une logique assez intéressante.
Oui, on espère bien que ça va se développer d'autant plus, hein, et donc si vous-même vous voulez participer ou utiliser les chatons, n'oubliez pas, je suis sûr qu'on en reparlera.
Next Impact, priorité au logiciel libre, l'April exhorte le gouvernement à la transparence. Un article de Xavier Berne.
Donc des sujets qui reviennent, c'est pas nouveau.
Oui, alors sauf que bon, c'est un nouveau round, ça discute à l'Assemblée nationale de cette question de la priorité au logiciel libre. On rappelle que lors de la loi numérique, en tout cas dans le projet de loi numérique,
l'année dernière, oui.
Le machin a été vraiment minimisé, réduit à pas grand-chose. Et donc là, il y a des députés qui remettent le truc sur le tapis, notamment l'infatigable Isabelle Attard, épaulée également par André Chassaigne, qui est un député PC. Et en face de ça, il y a d'autres députés et un argument poids massue qui dit « la priorité au libre ne serait pas légale, donc on ne peut pas le faire ».
Donc pourquoi pas, c'est un argument que le gouvernement évoque plusieurs fois, ils ont mis ça sur la table en disant « non, étant donné nos analyses internes, on ne peut pas, c'est trop risqué ».
Voilà, alors les députés en question disent qu'ils n'y croient pas des masses, que pour eux c'est un argument de mauvaise foi, et nous à l'April on demande quelque chose parce qu'on a eu vent d'une note juridique.
Une note juridique de la Direction des Affaires Juridiques, la DAJ, du ministère des Finances et des Comptes Publics.
Voilà, donc on demande à ce qu'elle soit rendue publique, puisqu'il y a une notes juridiques, qu'ils avancent leurs arguments, on va pouvoir les discuter, les examiner, etc. Mais là, niette, c'est hors de question, nous dit le gouvernement.
Et non, et donc, qu'est-ce qui se passe à l'April? On a l'habitude, ce sera pas la première fois. Bah, demande à la CADA.
Oui, mais là, ils opposent un principe, voilà, sur une question de confidentialité par rapport aux lois en cours et ce genre de choses. C'est quand même intéressant de voir qu'il y a des arguments juridiques et qu'on ne va surtout pas les sortir pour ne pas discuter,
et
parce
là,
que c'est connu.
C'est
l'Assemblée nationale n'est pas un lieu de débat. Enfin, je veux dire, si c'était fait pour ça, ça
serait. Et puis alors, débattre sur la loi, ce serait vraiment.
Voilà, avec des vrais arguments et
donc pourquoi pas, les arguments sont peut-être tiennent la route, mais nous, bah, on voudrait les jeter un œil, pouvoir les démonter éventuellement, voir s'il y a des failles dedans, parce que on est mieux à plusieurs pour regarder ce genre de choses.
Tout à fait. Et on peut imaginer que si les arguments étaient solides, ils les auraient sortis,
ah oui,
et que s'ils les cachent.
Là, tu vois le mal partout. Non, ça peut pas être le cas. Voyons.
Ils payent combien, je peux dire. Ledevoir.com, éradiquer Facebook pour sauver la démocratie, un article de Fabien Déglise.
Honnêtement, ça c'est le troll de la semaine, peut-être même du mois ou de l'année. Ça a été repris dans pas mal de médias, pas que Le Devoir, hein, même l'Express, l'Expansion et d'autres ont repris. C'est Stallman qui... voilà, dit qu'il faut détruire Facebook.
Alors, on retrouve les arguments, on va pas s'étendre dessus, parce qu'on les connaît bien, sur le contrôle de nos vies, tous ces services hébergés qui,
non,
même s'ils utilisent du libre...
Quelque part, il va plus loin, en disant que là, ce qui est en jeu, c'est la liberté, mais tout court, hein, de tous les citoyens, et que les gouvernements doivent agir.
Et il a pas tort, hein. Je vais citer un exemple qui marche pas mal quand je fais des conférences et que je sors assez souvent, qui est ce brevet de Facebook pour faire des services pour les banques. Donc, c'est un brevet, hein. Ça n'existe pas encore, mais leur projet et leur idée, c'est de dire... chaque banque va s'abonner chez nous, et nous, on sait qui est en relation avec qui, et quand quelqu'un va aller voir sa banque en disant « prête-moi des sous », la banque va voir Facebook et en disant « bon alors, un tel veut des sous, est-ce que ses amis et sa famille payent bien leurs dettes ?» Est-ce que ce type est dans un milieu de gens qui sont des bons payeurs ou pas ? Et donc, on imagine le genre de société vers lequel on peut aller avec ce truc-là, quoi. C'est assez hallucinant, ça peut être très
loin. Coupable par nos relations sociales, par nos likes et par nos friends.
Et donc, Stallman a totalement raison de faire ça, mais évidemment, dire « il faut flinguer Facebook
». Éradiquer, clairement, voilà. Ça fait le troll. Mais au moins, il est repris. Et
voilà.
Ça, on peut apprécier, il y a une sorte de son médiatique qui se fait, c'est un son de cloche, et là, moi, ça me fait plaisir de voir Stallman, à chaque fois repris en photo, hein, plus ou moins jeune dans les photos, et Stallman repris dans ses propos outranciers, eh bien non, c'est pas forcément outrancier, c'est intéressant, il faut creuser.
Bon, il faut troller, quoi, il n'y a que le troll qui marche.
Le troll marche, en tout cas, clairement, et on le sait, hein, Stallman, des fois, il se débrouille pas trop mal sur ce sujet-là, mais il sera pas le seul, il sera pas le dernier, et en tout cas, si on pouvait le reprendre et analyser ce qu'il nous dit, eh bien, on pourrait apprécier.
TechRights, Microsoft has just blackmailed Linux twice in one single week and the media didn't notice or just ignored it because of Microsoft's charmed offensives. Et pendant ce temps-là, tu te fends la gueule.
Ah ouais,
c'est un terrible. Article du Dr. Roy Shestovitz.
C'est presque aussi dur que le titre.
J'ai du mal.
Je savais
alors
en
bon,
le prenant...
Le mec qui parle bien anglais, c'est toi en plus.
Je savais en prenant ce long titre-là. Bah oui, ils l'ont mis aussi long, hein, parce qu'ils expliquent quasiment tout l'article dans le titre. Mais je savais que t'allais galérer, ça m'a
voilà, en gros, aussi. L'article et le titre dit que Microsoft vient juste de faire du chantage deux fois en une semaine au monde du libre, enfin de l'open source, et que en gros, les médias l'ignorent complètement.
Parce qu'il y a une offensive de charme faite par Microsoft qui marche bien.
On en a parlé la semaine dernière.
Exactement.
Avec Microsoft
c'est
et
terrible.
Linux, même Steve Ballmer et Linux.
Oui, alors qu'il nous traitait de cancer il n'y a encore pas si longtemps. Non, là, Microsoft, ils font du libre. Oui, ils font du libre, et moi je l'apprécie, ils font du libre,
voilà,
vraiment.
Donc là, en gros, ce que l'article nous dit en anglais, et on vous fait une sorte de résumé, mais il faut aller le lire, c'est que pendant que Microsoft dit que le libre c'est super et qu'ils adorent et qu'ils sont rentrés dans la fondation Linux, ils continuent à déposer des brevets et à jouer de leurs brevets pour faire la pression sur les constructeurs et sur les éditeurs.
Et ils sont rentrés dans des boîtes, c'est-à-dire rentrés légalement dans des boîtes, en leur promettant probablement de ne pas leur casser leur modèle, et en faisant des accords d'échange de brevets, hein, ou de paiement de brevets. Alors, soi-disant en bons amis, mais justement, voilà. C'est ce que l'article remonte. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, ces trucs-là, c'est j'arrive chez quelqu'un, vous êtes en train d'enfreindre mon brevet, il faut payer, passer à la caisse, et pas payer qu'un petit peu, pour des trucs parfois idiots en plus, bien sûr, hein, les brevets logiciels c'est souvent le cas, et donc clairement, Microsoft est un hypocrite, est un menteur quand il dit qu'ils aiment le monde du logiciel libre. Oui, le logiciel libre c'est bien, ils en font, mais à côté de ça, les brevets logiciels ça leur apporte trop pour s'arrêter de...
Ils continuent, en fait ce que dit l'article c'est qu'ils considèrent que Linux c'est leur propriété intellectuelle et que c'est à eux, et donc il dit avant ils le prétendaient, maintenant ils se conduisent comme si c'était le cas.
Et comme c'est le plus fort. Hein.
Voilà, et donc ils sont en train de mettre en place des trucs, continuer à prendre des brevets, hein, également, et ils ont fait ça avec les téléphones Android. On rappelle qu'ils font une fortune avec les téléphones Android sur lesquels ils n'ont rien développé, juste sur ces questions de brevets, et qu'aujourd'hui, ils sont en train de dérouler cette logique. Et donc, ils veulent un écosystème open source intégré chez Microsoft, où tout le monde fasse du Microsoft et tout le monde leur paye leur redevance.
Donc, espérons qu'en Europe, on continue à interdire au moins dans les principes les brevets logiciels, et donc qu'ils ne pourront pas comme ça empiéter sur les entreprises européennes.
Ce qui serait pas mal, c'est que la communauté, notamment les autres grosses boîtes, mais que la communauté, notamment Linux, réagisse et voit la manœuvre et essaye de les contrer.
C'est mal barré. La preuve, c'est qu'il a fallu cet article en anglais qu'on me remonte cette semaine. Moi, effectivement, ça m'était passé à côté complètement. Donc oui, effectivement, leur offensive de charme marche bien. On n'a pas fait attention à ce que Microsoft faisait en sous-marin sur les brevets logiciels.
Très bien, on a fait le tour de la revue de presse. Merci Manu.
Je te dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.